France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de nous entretenir une heure avec la biochimiste et prix Nobel de physiologie médecine 2023, Cataline Carico, est notre invitée. Elle est l'une des aventurières de l'ARN messager, cette petite molécule qui signale à nos cellules comment fabriquer telle ou telle protéine. Très tôt, elle a l'idée de pouvoir exploiter ce mécanisme pour lutter contre les maladies. De la recherche fondamentale au développement pharmaceutique, elle a consacré sa vie à démontrer que l'ARN messager pouvait avoir un usage thérapeutique. Ce sont ses travaux révolutionnaires et ceux du médecin Drew Weissman, avec qui elle partage le Nobel, qui ont permis le développement en un temps record des vaccins contre le SARS-CoV-2. Cataline Carico, la reine de l'ARN-M. Et Cataline Carico, bonjour.
Hello.
Vous êtes biochimiste, prix Nobel de physiologie 2023, vice-présidente de l'entreprise BioNTech entre 2013 et octobre 2022. Et votre autobiographie, Ne jamais renoncer, parue l'an dernier aux éditions Conto. Merci, mille merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous.
Thank you very much for inviting me.
Merci, merci à vous également, Eve Dair, d'être aujourd'hui notre voix française. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Pour retrouver toutes nos sources et toutes nos ressources, migrez avec nous sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. Tous les jours, nous publions de nombreux liens pour compléter votre écoute. Alors, quelles ont été les différentes étapes pour développer des thérapies sûres à base d'ARN messager? Pourquoi cette possibilité de recherche a-t-elle mis autant de temps avant d'être prise au sérieux? Et quels sont les obstacles que vous avez, à force d'obstination et de travail, réussi à franchir? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Et on commence avec notre archive du jour. La parole est donnée à un autre pionnier de l'ARN messager. Nous sommes en 1965.
Quand vous avez appris que vous aviez le Nobel, quelle a été votre réaction, votre première réaction?
Oh, c'était une très grande joie et une assez grande surprise également, parce que je crois enfin que ces recherches ont de l'importance, mais il s'agit de travaux d'une nature assez abstraite, et par conséquent... Je pense, à plusieurs reprises, on m'avait dit que ces travaux pourraient valoir un prix Nobel. Et sans vouloir faire de la fausse modestie de moi du monde, il me semblait qu'il n'avait pas le caractère de certitude, non pas de certitude, mais le caractère de délimitation précise d'une découverte. Quand on découvre le radium, eh bien, on peut dire, monsieur un tel a découvert le radium. Eh bien, nous n'avons rien découvert de comparable au radium. Nous avons découvert non pas un objet ou une chose, mais un mécanisme. Il serait difficile d'employer les mots techniques. C'est un mécanisme qui intervient au centre de commande de l'activité des cellules. Et si vous le voulez, on peut le comparer à un grand poste d'aiguillage électrique dans une gare de triage. Ce poste d'aiguillage commande la marche des convois, les distribue suivant les voies selon les besoins du trafic. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il existe en fait un tel centre de triage et d'orientation des activités dans une cellule. Et nous avons pu, jusqu'à un certain point, comprendre, démonter, si vous voulez, le mécanisme de ce système d'aiguillage.
Voilà là. La voix de Jacques Monod en 1965 dans une archive INA. Voilà, Jacques Monod, prix Nobel de médecine 1965 avec François Jacob, André Lvov, pour leur découverte de l'ARN messager. Alors je vous pose la question à vous aussi, Cataline Carico. Quand vous avez appris que vous aviez eu le Nobel, quelle a été votre réaction?
Vous savez, j'étais très heureuse, bien sûr, de pouvoir travailler. Mais je n'arrivais pas à y croire que j'étais lauréate du prix Nobel. Je croyais qu'on me faisait une blague. C'est la plus grande récompense à laquelle puisse aspirer un scientifique. Mais pour moi, la plus belle récompense, Ça a été les lettres de ceux qui ont échappé à la mort grâce au vaccin anti-Covid. Ils étaient très reconnaissants. Et ça, c'était la plus belle des récompenses pour moi.
Par rapport justement à ce travail acharné que vous avez effectué pendant des décennies, peut-être un mot sur justement l'objet de vos recherches. Jacques Monod évoquait justement la découverte, non pas d'un objet ou d'une chose, mais d'un mécanisme. Physiologiquement, qu'est-ce que l'ARN messager, quel est son rôle ?
Donc, il y a plus de 60 ans, on a donc découvert l'ARNm, qui était instable. C'était le mot qui revenait le plus dans les publications scientifiques. Il se dégrade très rapidement, cet ARN messager. En tant qu'étudiante, j'ai commencé à synthétiser des courtes séquences d'ARN en Hongrie et puis aux États-Unis. Et dès 1989, j'ai commencé à travailler avec l'ARN messager. J'y voyais un grand potentiel. Mais il y avait beaucoup de problèmes scientifiques à résoudre. Vous savez, c'est vraiment un sport d'équipe, la science. Il faut les contributions de tas de chercheurs. Comment fabriquer cet ARNm ? À partir de 1984, on a réussi à fabriquer de l'ARNm et à l'utiliser pour différentes applications. La difficulté, c'était la dégradation très rapide de cet ARNm. Et puis, les autorités scientifiques n'accordaient que très peu de subventions à ce type de recherche à l'époque. Donc, beaucoup de scientifiques ont quitté ce champ d'investigation, tandis que moi, je m'obstinais à essayer d'améliorer ces techniques. Et j'y ai consacré toute ma vie pendant plus de 40 ans.
Avant de voir comment vous avez fabriqué justement de l'ARN messager thérapeutique, peut-être qu'on peut rappeler pour nos auditeurs et nos auditrices, Cataline Carico, comment fonctionne l'ARNm, hein, comment ça fonctionne d'un point de vue moléculaire.
Vous savez, on n'a pas inventé justement l'ARNm, il a été découvert. Et nous essayons de fabriquer une molécule dans un tube à essai. En fait, l'ARNm, c'est un message qui vient du noyau de nos cellules où il est généré pour copier l'ADN qui contient tout notre matériel génétique. Et cet ARN messager est fabriqué, sort du noyau, passe par l'usine à fabriquer des protéines, et la protéine est produite, celle que va coder cet ARN messager. Dans notre corps, on fabrique des protéines, des enzymes qui sont également des protéines, et ces enzymes produisent des lipides et d'autres molécules, et nous sommes composés de tout cela, toute notre information qui réside dans les chromosomes. Et puis, c'est l'ARN messager qui transporte l'information depuis les chromosomes jusqu'au lieu, à ces usines de fabrication de protéines.
Ces usines de fabrication de protéines, en effet, qui sont au cœur de ce mécanisme, hein, les ribosomes. Pour bien comprendre, hein, lorsqu'une cellule a besoin d'une protéine, en fait, le plan de fabrication de cette dernière est en quelque sorte photocopié. On dit que son gène est transcrit. C'est cette copie qui est donc de l'ARN messager. Mais ça, à l'époque, durant votre enfance, c'était un mécanisme qui était encore inconnu.
Yes, indeed. And, you know, I couldn't speak tout à fait. Et puis moi, je ne parlais pas anglais à l'époque, en 1961, donc je ne pouvais pas lire en anglais les articles de Nature. On était derrière le rideau de fer en Hongrie, donc l'anglais était très peu appris. J'ai grandi dans un petit village où personne ne parlait anglais non plus. Donc j'ignorais tout de l'ARN messager, mais à l'école, j'ai commencé à apprendre, à découvrir toutes ces choses et j'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur qui plus tard a enseigné à l'université. Et quelques années après la découverte de ce code de l'ARNm, ce professeur a décidé d'enseigner la biologie moléculaire. C'était vraiment un pionnier, donc j'ai eu ce grand plaisir de découvrir tout cela.
after the discoveries.
Et ça, c'était moins de 10 ans après la découverte de l'ARN messager.
Vous savez d'où vient justement ce goût des sciences, cette curiosité scientifique? C'est l'école élémentaire qui vous a appris cela?
Yes, indeed. So I had again in
the elementary school. À l'école élémentaire, j'ai eu la chance d'avoir des profs merveilleux, des instituteurs merveilleux. On avait une classe de biologie. Et le professeur nous emmenait, nous promenait au parc, observait la nature tout autour de nous. Il pointait des choses intéressantes, une petite mare ici, les arbustes, les lys qui flottaient sur l'eau, les fleurs de lotus. Pourquoi elle flottait sur l'eau? Et puis, un instituteur nous a appris à fabriquer des cristaux. Et tout ça, on faisait ça de nos propres mains, des petites expériences à l'école. Mais surtout, on observait tout ce qui nous entourait. C'était une merveilleuse classe scientifique.
Vous êtes encore lycéenne et vous assistez au cours d'été de 1972 à l'université de Stige. Vous entrez alors dans ce bastion de la recherche scientifique nationale en 1973 et vous n'avez, vous racontez ça dans votre autobiographie, vous n'avez plus qu'une idée en tête. Vous vous dites, d'ici 5 ans, je serai, moi, biologiste.
Oui, quand j'étais au lycée, il y avait un programme pour aider les enfants défavorisés à avancer dans leur éducation. Mes parents s'étaient arrêtés à l'école primaire. Et moi, j'ai eu la chance de passer un été dans une grande université, dans une ville. Et j'ai tellement appris, tellement découvert là. Et c'est là que j'ai su que j'allais devenir scientifique et que tous les jours, je travaillerais sur des tâches différentes et passionnantes. Dans cette université de Szeged, justement dans la ville de Szeged, un centre de recherche biologie venait d'ouvrir et un institut académique. C'était mon rêve d'y travailler un jour et de faire des découvertes.
En 1978, justement, vous rejoignez le centre de recherche biologique de Stiged. Vous y passerez 7 ans. C'est à ce moment-là que vous travaillez sur l'ARN?
C'est exactement cela. J'ai commencé à travailler sur l'ARN en 1978 avec des lipides, des liposomes, dont je me suis servi pour envelopper l'ARN. Je travaillais en tant qu'étudiante dès 1975, 76, 77. Tous les étés, je travaillais à l'université et pendant les vacances scolaires. Et je travaillais sur les lipides. C'était un aspect important. Et puis aussi, je découvrais le métier des scientifiques.
Le métier des scientifiques, vous l'avez vraiment découvert au moment aussi de votre doctorat en 1982 au CRB. Alors votre sujet portait sur le système interféron, puis vous travaillez également sur une molécule d'ARN particulier, la 2,5-A. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur votre sujet de thèse? C'est un sujet que j'affectionne particulièrement dans ces grands entretiens.
En 1977...
En 1977, on a découvert que le mécanisme antiviral de l'interféron était médié par cette petite molécule d'ARN qu'on appelle la molécule 2,5-A. Composé, qui est un peu comme l'ARN messager, composé de blocs de base. J'ai synthétisé cette petite molécule et j'ai créé mon propre laboratoire pour cribler ces molécules et je me suis aperçue qu'elle avait un effet antiviral. Mon superviseur, mon directeur de thèse, travaillait pour une entreprise pharmaceutique et il nous a appris qu'il fallait travailler sur des sujets qui revêtaient une importance du point de vue du développement des médicaments, parce qu'il venait du milieu pharmaceutique. Donc, il nous a dit, écoutez, il nous faut un composé antiviral. Et donc, c'était notre but, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant quelques années. Et ça faisait partie de ma thèse de doctorat. Mais à l'époque, j'avais déjà commencé à utiliser des nucléosides modifiés pour les rendre stables, justement, contrairement à l'instabilité de l'ARN.
Et c'est que la question que vous vous posiez à l'époque, c'est comment transformer la 2,5-A en ARN thérapeutique.
Yes, yes, indeed.
Exactement.
Alors, votre parcours tel que vous l'écrivez dans votre autobiographie, c'est une leçon de ténacité. Vous dites, j'ai été l'archétype de la scientifique qui lutte et qui chute. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec Cataline Carico, aventurière de l'ARN messager, prix Nobel de physiologie médecine 2023. Nous vous racontons les coulisses d'une révolution scientifique. On vient de parler de vos débuts, de votre enfance passée en Hongrie. 1985, vous partez aux États-Unis pour poursuivre vos recherches sur ces molécules 2,5-A modifiées. Après quelques difficultés à Philadelphie, vous arrivez en 1989 à la faculté de médecine de l'UPenn, l'université de Pennsylvanie, et là vous rencontrez le cardiologue Elliot Barnatan. C'est une rencontre importante.
Yes, indeed, you know, going to America is not the same as today.
En effet, partir pour l'Amérique, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, on était en 1985, on n'avait pas de carte de crédit, pas de téléphone mobile. Avec mon mari, notre fille avait 2 ans et demi seulement. Et là, on arrivait dans un pays totalement inconnu. Je n'avais pas de famille là-bas, je ne connaissais personne aux États-Unis. Mais on est parti, et puis rapidement, il faut apprendre à nager, parce que vous êtes jeté dans les eaux profondes, et dès le lendemain, je devais trouver un travail. Mais j'ai beaucoup appris, nous avons beaucoup appris avec ma famille. C'était assez éprouvant. Et j'ai rencontré Elliot, ce cardiologue, en 1989. Et il a mon âge. Et quand je lui ai dit que l'ARN messager était la voie de l'avenir, lui s'intéressait à un type de molécule en cardiologie. Il s'intéressait aux récepteurs TLR, les récepteurs de type TOL. Mais il a cru en mes recherches. Il y a vu un intérêt, il trouvait ça important. Et il m'a dit qu'il fallait que je convainque au moins une personne, que ce soit mon superviseur, mais en tout cas quelqu'un qui allait me verser un salaire. Elliot était surtout un clinicien, mais il était passionné de recherche et on a commencé à travailler ensemble. J'ai fini par obtenir un poste de professeur, assistante, et j'espérais avoir mon propre labo dans 1 ou 2 ans. Mais 7 ans plus tard, c'était toujours Elliot, ce cardiologue, qui payait mon salaire parce que je n'arrivais pas à décrocher de subventions. Et il m'a souvent défendu lorsque mes supérieurs ne croyaient plus en moi, ne voulaient plus de moi dans le labo. Il en a payé le prix, d'ailleurs. Car il aurait dû être titularisé, il ne l'a pas été, donc il est allé travailler pour une autre université. Je suis restée en contact avec lui, et bien sûr, lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de médecine, il était invité, il était dans la salle, il a tellement compté pour moi.
Vous dites en effet qu'il n'y avait pas de subvention pour votre domaine. À ce moment-là, l'université de Pennsylvanie fait le choix d'orienter ses investissements vers la thérapie génique et non pas la thérapie par ARN messager. Cataline Carico, quelle différence entre les deux? Quels sont les avantages et les inconvénients de la thérapie génique vis-à-vis de la thérapie par ARN messager?
You have to understand that in the 1990s,
il faut bien comprendre que dans les années 1990, lorsque le séquençage du génome humain a commencé, ce grand projet, dès qu'on découvrait un gène responsable d'une pathologie particulière, On se disait, eh bien, il faut introduire les gènes correcteurs pour surmonter la maladie, pour vaincre la maladie. Alors, tout le monde parlait d'apporter des gènes basés sur des virus et les amener jusqu'à l'intérieur de la cellule. Mais cela corrigeait les gènes en modifiant les chromosomes. Moi, je me suis dit que la plupart des maladies n'étaient pas génétiques. Souvent, ce sont des maux, des douleurs qui n'ont pas besoin d'un transfert permanent de gènes, mais simplement d'un changement qui change le taux de protéines à tel endroit. Et que donc, délivrer cet ARNm qui code pour les protéines souhaitées, j'ai pensé que c'était une bonne voie. Mais personne à l'époque ne parlait d'utiliser l'ARN messager. Tout le monde s'intéressait à la thérapie génétique à base de virus, à base d'éléments viraux. Et moi, je croyais fermement qu'il y avait une place pour la thérapie à base d'ARNm. Mais ce n'était pas bien accepté. Et quand j'en parlais à des gens, je travaille sur l'ARNm, les gens se désolaient pour moi, oh la pauvre. Et ils disaient tous, oh là là, mais je déteste travailler avec l'ARNm, c'est si difficile.
En attendant, Elliot Banatan, vous nous avez dit en effet qu'il travaillait sur les TLR, les récepteurs de type Toll, il travaille également sur l'urokinase, un type précis d'activateur du plasminogène. Est-ce que vous pouvez nous éclairer également sur ces travaux-là?
Il y a un récepteur pour l'activateur plasminogène et on a commencé à travailler sur l'urokinase, une enzyme qui dissout les caillots de sang qui sont à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux ou d'attaques cardiaques. On a introduit ça dans la clinique dans les années 80. Et lui travaillait sur la chirurgie cardiaque, les pontages, et souvent on était embêté avec des caillots. Eh bien, si on pouvait délivrer ces récepteurs grâce à l'urokinase, on éviterait le problème des caillots sanguins en introduisant cette molécule, l'urokinase, pour éviter encore une fois la formation de caillots sanguins. Alors j'ai travaillé sur les vaisseaux sanguins, comment y introduire de l'ARNm, et j'ai pu mesurer la protéine produite dans les vaisseaux sanguins. On les a isolés à partir de lapins, ces vaisseaux sanguins, pour l'expérience. Et j'ai essayé d'introduire un élément thérapeutique qui pourrait être utile pour les gens. Ça peut être transitoire, temporaire, une production éphémère de protéines, mais qui va être bénéfique pour le patient. Grâce à l'élimination des caillots sanguins. C'était notre idée.
En effet, vous travaillez donc sur cette possibilité de réduire le risque de caillots sanguins, mais en 1997, Katalin Carrico, vous faites la connaissance du médecin immunologiste Drew Westman, le coloréat du prix Nobel de 2023. À ce moment, il ouvre son propre labo à peine, et là, vous entendez parler justement de vaccins, de nouveaux vaccins, notamment de travail sur un vaccin contre le VIH. Ça, pour vous, ça ouvre une nouvelle perspective par rapport à l'ARN à usage thérapeutique.
En effet, oui. C'est dans le laboratoire d'Elliott que j'ai rencontré David Langer, qui était neurochirurgien. Et pendant 17 ans, grâce à eux, j'ai eu un laboratoire et un salaire, ce qui était capital. Je travaillais donc dans le département de neurochirurgie et c'est là que j'ai rencontré Drew Weissman. Mais au moins, j'avais un poste, un labo et un salaire. J'ai rencontré Drew Weissman devant la photocopieuse.
And Drew Weissman told me that he just
Drew
coming
Weissman
from Fauci lab
m'a dit qu'il venait NIH du laboratoire de Fauci à Washington. Et il voulait mettre au point un vaccin contre le VIH pour soigner les patients atteints du VIH et prévenir l'infection. Il voulait découvrir un vaccin thérapeutique et prophylactique. Et il travaillait sur des cellules particulières, les cellules dendritiques. Moi, je ne connaissais pas à l'époque ces cellules dendritiques. Et j'ai découvert tout ce que je sais en immunologie grâce à Drew Weissman. Ce que j'avais appris à l'époque était totalement dépassé. La science avait avancé. Et moi, je lui ai fait découvrir l'ARN messager. Je travaillais depuis 10 ans dessus. Et lui m'a appris l'immunologie. On a commencé à collaborer à partir de 1997.
Alors pourquoi les cellules dendritiques, ces cellules immunitaires, sont-elles d'excellentes cibles pour les vaccins?
Dendritic cells are the most professional immune cells.
Les cellules dendritiques sont les cellules immunitaires les plus professionnelles. Et on pouvait les générer à partir de cellules sanguines humaines. Et on peut s'en servir pour apprendre aux autres cellules immunitaires à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut reconnaître. Et c'est essentiel pour le développement des vaccins. Ces cellules avaient été découvertes peu avant que je rencontre Drew et on a finalement saisi leur importance. Drew Weissman en labo pouvait générer ces cellules. Moi, je faisais l'ARN. Et puis, on testait, on expérimentait et on voyait si l'ARN pouvait servir pour les vaccins. C'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration.
Et dans ces expérimentations avec Drew Weissman, vous avez introduit votre ARN-M dans les cellules dendritiques. Vous avez constaté qu'il avait été traduit, mais il se passait quelque chose de curieux. Les cellules dendritiques produisaient aussi des cytokines inflammatoires en grande quantité. Vous êtes rendu compte, en effet, d'une réaction inflammatoire qui était liée à l'ARN messager.
Oui, ça a été une grande surprise et on ne comprenait pas ce qui se passait. On a de l'ARN-M partout dans notre corps. Et d'où vient cette information? Cette inflammation. Mais c'est peut-être parce qu'on fait entrer l'ARN-M à l'intérieur de nos cellules à partir d'une éprouvette. Mais pourquoi cette inflammation? Et on s'est demandé si tous les brins d'ARN étaient inflammatoires. J'avais tout un répertoire d'ARN différents, l'ARN de transfert, l'ARN messager, et on a testé différents types d'ARN pour voir si tous étaient, enfin, provoquaient une inflammation. Et puis on a découvert que l'ARN T, l'ARN de transfert, n'était pas, ne menait pas des réactions inflammatoires. On s'est bien sûr demandé pourquoi.
25% of the nucleocides, the building blocks,
25% des nucléocides sont modifiés. On s'est dit peut-être cette modification est importante et que ça peut permettre que l'ARN ne mène pas des réactions inflammatoires si les blocs de construction sont modifiés. Et on s'est dit donc qu'il faut faire de l'ARN messager avec des briques de construction mais modifiées. Personne ne s'était attaqué à cela auparavant. On a dû comprendre le moyen donc d'arriver à cela. C'est ça le travail des scientifiques, c'est faire des choses inédites qui n'ont jamais été essayées auparavant. Il faut se débrouiller, bricoler, on ne sait pas si ça va être possible. Mais il faut rester optimiste et essayer, expérimenter différentes manières et puis on réussit au final.
Alors comment avez-vous fait pour éviter justement l'inflammation que l'on observait systématiquement avec l'ARN messager de synthèse? Comment vous vous y êtes prise? Restez à l'écoute. mRNA. First some music and then we'll let you...
ton ADN, j'aime ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où c'est toujours la nuit. J'aime ta dégaine, donc ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où je suis toujours assis. On dirait tes gestes un peu ta maman, on dirait tes mots un peu ton papa, un peu ton maman, un peu ta papa. Si tu vois ce que je vois, on dirait les rois mages vers leur étoile. Ses gestes un peu sa maman, on dirait ses mots un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa. Si tu
Philippe Catherine, ADN, en direct sur France Culture, car nous parlons tout au long de cette heure de cette petite molécule qui est l'ARN messager, qui transporte le code génétique de l'ADN. On en parle avec l'une des pionnières, Cataline Carico, biochimiste, prix Nobel de physiologie 2023 et ancienne vice-présidente de BioNTech. On vient de parler de comment, en 10 ans, vous travaillez à l'élaboration d'un ARN messager thérapeutique et comment il a fallu trouver un moyen pour empêcher cet ARN messager d'activer le système immunitaire. Comment avez-vous fait ?
Nous avons découvert cet ARN, TARN de transfert, qui contient des briques de construction modifiées qui ne mènent pas à des réactions inflammatoires. Notre ARN est souvent modifié grâce aux enzymes dans notre corps. Mais là, on était en terrain inconnu. Donc, on s'est procuré des briques de construction modifiées et on a testé sur des cellules dendritiques cet ARN-M. Et on a obtenu de la pseudo-uridine. Et quand l'ARN contenait de la pseudo-uridine, il ne causait pas d'inflammation. La pseudo-uridine est naturellement présente dans notre organisme. Et c'était très surprenant. On arrivait à fabriquer beaucoup plus de protéines avec cet ARN modifié par rapport à l'ARN messager conventionnel. On ne comprenait pas vraiment le mécanisme à l'œuvre, mais on était très enthousiastes. Et on a publié cette découverte en 2005.
Dans la revue Immunity. À l'époque, cette découverte révolutionnaire semble presque avoir échappé au reste de la communauté scientifique, non ?
Oui, je dois dire que Drew Weissman est un homme très discret, très modeste. D'après son épouse, il n'a qu'un stock limité de mots qu'il peut prononcer dans une journée. Et généralement, le temps qu'il rentre chez lui, il les a tous utilisés. Il parle peu. Mais à l'époque, quand on a soumis l'article et qu'il a été accepté, publié, il m'a dit, demain, le téléphone ne va pas arrêter de sonner et tous les scientifiques du monde voudront travailler avec nous. Eh bien, le lendemain, aucun coup de fil. La semaine prochaine, le mois suivant, les années suivantes, personne ne nous a appelé, personne ne s'y intéressait.
Et voilà, et 2023 a été un joli pied de nez à cette histoire. Après avoir parlé voilà, des différentes étapes pour développer justement des thérapies sûres à base d'ARN messager, aujourd'hui on a plusieurs manières de synthétiser l'ARN messager. Soit on utilise une enzyme, comme le fait notre corps, soit on le fait chimiquement grâce à une machine. On continue de parler de la fabrication d'ARN messager avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour notre reportage du jour, vous êtes allé voir un synthétiseur d'ARN à l'Institut Pasteur.
Oui, visuellement, la machine n'est pas particulièrement impressionnante. On y voit un enchevêtrement de tuyaux et de petites fioles reliées à des tourelles en plastique et le tout est contrôlé informatiquement. Cette machine assemble les brins d'ARN brique par brique, un peu comme un enfant qui construit une structure avec des Legos. Et les briques qui sont utilisées pour former ces oligonucléotides, ce sont des nucléosides. C'est la même chose que les nucléotides, à un détail chimique près, les nucléosides n'ont pas le groupement phosphate qu'ont les nucléotides. À l'Institut Pasteur, j'ai rencontré Marcel Hollenstein, qui dirige l'unité chimie bio-organique des acides nucléiques.
Alors ici, on est dans un laboratoire de chimie de mon groupe et on est en présence d'un synthétiseur d'ADN ARN où on peut justement synthétiser des oligonucléotides ADN, ARN, chimiquement modifiés ou pas, de manière synthétique. Le principe, c'est qu'on peut utiliser un support solide qui est dans des colonnes. Donc
C'est des toutes petites colonnes plastiques.
Voilà, exactement. Alors, on ne voit pas le support solide parce qu'il n'est pas en fonctionnement là. Mais en gros, dans ces colonnes, on met un support solide sur lequel, en fait, on va construire l'oligonucléotide en ajoutant de manière séquentielle des nucléosides.
Ce que vous appelez support solide, c'est quoi exactement ?
C'est un peu comme du sable, si vous voulez, qui a été un peu modifié chimiquement, sur lequel on peut ajouter finalement des nucléosides.
Ce petit grain de sable, on le met là dans cette colonne en plastique et derrière, on vient pomper des nucléosides via les tuyaux qu'on voit ici qui sont reliés à des petits flacons. J'imagine que dans ces flacons, il y a les nucléosides.
C'est exactement ça. Et donc, le nucléoside va être amené à ce support solide. Ça va donc l'ajouter sur la chaîne qui est en train de croître. Une fois que ceci est fait, eh ben le prochain nucléoside est ajouté jusqu'à ce que l'on atteigne finalement toute la séquence que l'on voulait produire et à quel moment la synthèse s'arrête.
À la fin, le produit fini, il y a toujours le grain de sable qu'on avait au début ou justement on enlève ce grain de sable après ?
Une fois que tout ça c'est fini, il faut récupérer ce sable modifié, ce support solide modifié. Et il faut évidemment récupérer l'oligonucléotide qui est fixé sur ce support solide. Donc pour ça, on utilise de l'ammoniac pour le détacher. On enlève également les groupes de protection, ce qui explique aussi une partie du problème de la synthèse chimique, c'est qu'il faut protéger les nucléosides pour pas qu'ils réagissent de manière non contrôlée. Et donc on doit enlever tous ces groupes de protection, ce qui explique la génération de pas mal de déchets au cours de cette synthèse.
Si on essaye de retracer un petit peu le trajet de synthèse du brin d'ARN, tout part donc de ces nucléosides ici, vient se fixer sur le grain de sable dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces tuyaux qui sont encore au-dessus
Ces tuyaux, en fait, amènent tous les liquides sur le support solide, que ce soit des solvants pour laver le sable, que ce soit pour amener les nucléosides, que ce soit amener les réactifs qui permettent d'activer le couplage entre le nucléoside et ce qui est déjà fixé sur le grain de sable. Donc c'est des tuyaux qui sont essentiels pour toutes ces activités. Et c'est ça qui est peut-être la beauté de ce genre de système, c'est que finalement, avec une machine relativement simple, parce que c'est constitué uniquement d'une pompe, qui permet de réguler les flux, c'est la seule chose dont on a besoin pour synthétiser finalement
des oligos. C'est le seul moteur de cette machine en fait, c'est cette pompe.
Exactement.
Ça, avec donc ce synthétiseur d'ARN et d'ADN qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'on appelle la synthèse chimique, mais les vaccins à ARN qu'on connaît et qui sont commercialisés aujourd'hui, ils ne sont pas du tout synthétisés comme ça.
Non, exactement. On ne peut pas les produire de manière chimique, puisque la synthèse chimique est limitée à des oligonucléotides de peut-être 200-300 nucléotides. Or, les vaccins ARN messagers sont longs de plusieurs milliers de nucléotides.
Et c'est quoi les principales différences dans la manière de synthétiser le nucléotide?
Les différences vraiment notables, c'est que ici, on utilise des nucléosides activés au milieu anhydre sur un support solide.
Anhydre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau.
Tout à fait. Dans la synthèse enzymatique, on utilise des enzymes pour catalyser la réaction et on utilise des nucléosides triphosphates, donc des nucléotides. Ça se fait en solution et dans l'eau.
Et alors, la grande question que j'ai devant cette machine, c'est si on ne peut pas former des oligonucléotides qui sont suffisamment longs pour faire des vaccins avec ces machines-là, pourquoi on continue à faire de la recherche là-dessus et pourquoi c'est intéressant d'essayer quand même de les synthétiser de cette manière-là?
Il y a deux réponses. La première, c'est qu'on peut faire des oligonucléotides thérapeutiques qui sont beaucoup moins longs que l'ARN messager vaccin.
Dans le cas de certaines thérapies, il n'y a pas besoin d'avoir des brins d'ARN très très longs.
Exactement. Ces oligonucléotides ont des mécanismes très différents des vaccins ARN messager. En gros, dans les vaccins ARN messager, le but c'est que l'ARN messager soit traduit ensuite pour que, en fait, l'antigène qui est codé justement dans cet ARN messager génère une réaction immunitaire qui va protéger l'organisme contre la présence d'un virus. Alors que dans les oligonucléotides thérapeutiques du type antisense ou siARN, on va soit bloquer l'ARN messager pour éviter qu'une protéine soit exprimée, qui est impliquée dans une maladie, ou carrément hydrolyser, détruire l'ARN messager qui coderait pour une telle protéine.
Ça, c'est un avantage qui permettrait d'utiliser ce genre de machine dans le cadre de certaines thérapies. Mais quel est l'autre avantage qui, j'imagine, fait que ça a un intérêt d'utiliser plutôt cette machine-là?
C'est parce qu'on essaye de développer de nouvelles méthodes qui permettent de produire ces ARN messagers vaccins. Je pense que le futur dans les oligonucléotides thérapeutiques, mais également modifiés, ce sera des méthodes qui mélangent la synthèse chimique avec des méthodes enzymatiques, polymérase ou d'autres enzymes finalement. On travaille aussi sur des ligases et d'autres types d'enzymes pour produire des oligonucléotides de taille aléatoire, entre court et très long, avec des modifications à des endroits précis.
L'idée, si j'ai compris, ce serait de faire des grands brins d'ARN avec la méthode enzymatique et de modifier à certains endroits avec la méthode chimique.
C'est plutôt de faire des brins relativement courts avec la synthèse chimique et de demander à des enzymes de les combiner ensemble pour après les assembler ensemble et former des fragments très longs.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Catherine Caricot, à l'écoute justement de ces mots, comment ces travaux menés à l'Institut Pasteur vous font-ils réagir?
Talking about these oligos, I have to say the importance when 2004 when we did the experiment, we also ordered.
Nous avons commandé des oligos modifiés avec 13 nucléotides et on a testé notre système. Ces chaînes incorporaient des modifications et on a pu prouver qu'elles étaient moins immunogènes. Donc pour nous, la synthèse chimique de l'ARNm était très importante. Dans notre article, d'ailleurs, on en a parlé, on a évoqué les résultats qu'on avait obtenus avec cette oligose et synthèse chimique. Les oligonucléotides, que ce soit à base d'ARN ou d'ADN, ont été utilisés il y a déjà plusieurs années. Et c'est ça qui m'a donné cette idée que ce serait beaucoup plus simple d'amener l'ARN messager là et d'obtenir la traduction plutôt que d'essayer de cibler l'ARNm avec ses oligos. Mais la synthèse de l'ADN, de l'ARN ne permet que d'obtenir des séquences de longueur limitée d'ARN. Mais tout avance, tout progresse. Et peut-être que dans un avenir proche, on aura des séquences très longues d'ARNm et que ce sera grâce à une fabrication chimique.
Avant de parler de l'avenir thérapeutique de l'ARNm, petit retour en arrière 2013. Katalin Carico, vous sondez le secteur des biotechnologies, vous vous tournez vers d'autres employeurs privés. Juillet 2013, vous devenez la vice-présidente de BioNTech. Vous cherchez alors à comprendre comment améliorer votre ARN messager et ses formulations. Vous avez aussi commencé à travailler sur des vaccins ARN messager contre diverses maladies. Donc lorsque la crise du Covid frappe, vous étiez prêt à l'affronter.
Oui, c'est là que j'ai pris la décision d'aller travailler chez BioNTech, donc d'aller en Allemagne. Il se trouve que je n'avais plus de poste à l'Université de Pennsylvanie. On m'a obligé à prendre ma retraite. Et au lieu de regarder l'herbe pousser dans mon jardin, je me suis dit que j'avais encore des choses à offrir, que je pouvais encore contribuer à la science. Donc, j'ai accepté ce poste en Allemagne, chez BioNTech. Even Drew want to make vaccine. Et at the same time, I'm working on neurosurgery. I want to always make mRNA coding for therapeutic. Moi, je voulais fabriquer de l'ARNm qui codait pour des protéines thérapeutiques pour vraiment aider les patients. Et chez BioNTech, j'étais chargée de fabriquer de l'ARNm qui codait pour des anticorps ou des protéines thérapeutiques, pas vraiment des vaccins. Les vaccins, c'est une autre ligne de travail avec le cancer, par exemple. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais une équipe autour de moi. Aux États-Unis, je me débrouillais seule, sans équipe. Donc là, c'était un changement inspirant. En 2015, on a commencé à travailler sur la mise au point de vaccins contre les maladies infectieuses.
Mais justement, dans l'histoire, le vaccin le plus rapidement mis au point, c'était celui pour les oreillons dans les années 60. Ça a pris 4 ans. BioNTech a développé en l'espace de quelques mois seulement un vaccin contre le SARS-CoV-2. Une telle vitesse de fabrication, comment cela a-t-il été possible, Katalin Carico?
We already at that point in the end of 2019, before
à ce stade, à la fin de 2019, avant que la pandémie éclate, nous étions déjà prêts pour tester un vaccin anti-grippe développé avec Pfizer. On a commencé en 2018 à collaborer avec Pfizer et on était prêts à tester cela sur des patients. Et là, c'était contre des protéines spécifiques du vaccin contre l'influenza, contre la grippe. Mais l'ARN messager est généré à partir de l'ADN. Et la synthèse de l'ADN avait déjà fait beaucoup de progrès.
As a template to generate the RNA, you needed 24 hours, and you could make it.
Il fallait 24 heures pour fabriquer de l'ARN à partir de l'ADN. La technologie avait énormément progressé. C'est ça ce qui a rendu cela possible. Et puis on avait déjà accumulé de l'expérience et on avait testé des vaccins contre d'autres pathologies.
Ugo Zahin and the team in BioNTech already 2012 they already used the
dès 2012 on avait mis au point des vaccins contre le cancer. Donc il y avait toute une expérience chez BioNTech, notamment au niveau de l'administration de ces vaccins, mais bien sûr les progrès se sont considérablement accélérés ces années-là et ont culminé avec la découverte du vaccin contre le virus. Avant, on travaillait avec des virus inactivés. Il fallait des années pour obtenir des mutations, pour que les vaccins ne provoquent pas la maladie, mais qu'on vienne pour une vaccination. Ça a pris beaucoup de temps. Et là, tout était beaucoup plus simple.
En effet, les vaccins à partir de virus atténués, ça prend beaucoup plus de temps à mettre en œuvre. La rapidité, yes, ça fait partie des promesses des thérapies des vaccins à ARN messager. On arrive à la fin de cette discussion, Katalin Carico. J'ai lu pour la suite, pour le et après, que vous souhaitiez désormais vous consacrer à de nouveaux projets, notamment le développement via l'ARN de protéines thérapeutiques pour favoriser la cicatrisation des tissus et des os et pourquoi pas aussi guérir de cancer. Quels sont les cas pratiques envisagés à court terme désormais? Quels sont vos projets?
À l'heure actuelle,
je suis conseillère simplement chez BioNTech. J'ai démissionné de mon poste. Pendant des années, je voulais m'attaquer à une maladie neurodégénérative difficile. Et je n'abandonne pas la recherche, je suis incapable de me mettre au repos. Je voudrais vraiment lancer des recherches pour aider les gens qui souffrent de ces pathologies. Être scientifique, c'est à la fois un bonheur et une malédiction. Un bonheur parce que le plaisir des découvertes, mais la malédiction, c'est qu'on ne peut jamais s'arrêter de chercher encore. Peut-être je peux aider davantage les gens, peut-être je peux découvrir quelque chose d'important pour l'humanité. Donc je travaille là-dessus actuellement. Et puis à l'université de Szeged, je travaille sur la mise au point de projets autour toujours de l'ARN, la recherche sur l'ARN. Et puis bien sûr, il y a tellement d'applications pour l'ARN messager. Générer des cortisols, des anticorps pour la recherche dans le domaine du cancer. Et puis, pas seulement contre les virus, mais également contre les maladies causées par des bactéries ou les parasites, la tuberculose, etc. Tous ces vaccins sont en phase d'essais cliniques. Et vous savez le rôle que joue l'ARN M maintenant dans les thérapies anticancéreuses. Et puis il y a les maladies orphelines également. Et maintenant, on arrive à décrocher des financements plus facilement, maintenant que la communauté scientifique comprend l'importance de cet outil thérapeutique qu'est l'ARNM. Et c'est sur tous ces sujets que travaille la prochaine génération de chercheurs.
Pour conclure très rapidement, on dirait que l'ARN messager pourrait tout soigner, Katalin Carico.
Non, on ne pourrait pas tout guérir, mais beaucoup de choses. Il faut trouver la bonne formulation pour atteindre des cellules spécifiques. C'est ça le défi, la difficulté. Et beaucoup de chercheurs travaillent à l'élaboration de cette bonne formule pour que l'ARNM atteigne les cellules que l'on veut pour vraiment arriver à un résultat thérapeutique. Oui, un parfait ciblage, on travaille là-dessus. Aujourd'hui, je lisais des articles scientifiques sur les toutes dernières découvertes, ça n'arrête pas, j'en suis ravie.
Eh bien, merci beaucoup, Katalin Carico, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais pour compléter l'écoute, je rappelle que votre autobiographie « Ne jamais renoncer » est parue l'an dernier aux éditions Canto. Une autobiographie qui se termine par ces mots dans votre épilogue « Ne lâchez pas ». Merci.
Ok, thank you.
Tout de suite, un tout autre sujet, c'est la chronique avec science.
Que se passerait-il si la forme du bec des pinsons des Galapagos évoluait sous l'influence de facteurs environnementaux comme les sécheresses? Notre espèce n'est pas la seule à pousser la chansonnette, les pinsons de Darwin sont aussi de fins mélomanes. Cette dénomination désigne un cortège de presque 20 espèces d'oiseaux réparties dans l'archipel des Galapagos. Et si on dit qu'ils sont de Darwin, c'est parce que ce sont ces oiseaux qui lui ont permis de poser les fondements de sa théorie de l'évolution.
Après son voyage dans l'archipel des Galapagos en 1835, le jeune Charles Darwin fait un constat. Les pinsons qui vivent sur les différentes îles ont tous des becs spécialisés pour le type de nourriture majoritairement présent sur leur île. Les individus à gros becs sont plus efficaces pour manger de grosses graines, tandis que les becs fins sont plus adaptés à la capture des insectes. Voici deux exemples du phénomène d'insularisation écologique, c'est-à-dire que l'isolement de ces oiseaux sur des îles présentant des ressources alimentaires spécifiques a provoqué la séparation des animaux en plusieurs espèces distinctes et spécialisées dans l'exploitation de chacune de ces ressources. Par ailleurs, on sait à présent que le changement de forme du bec entraîne une transformation du chant des oiseaux. Grégoire Loïs travaille au laboratoire d'écologie du Muséum National d'Histoire Naturelle dans une unité soutenue par l'Office français de la biodiversité chargée de promouvoir des programmes de sciences participatives, en particulier sur les oiseaux.
Le chant des oiseaux est principalement des oscines, donc ce qu'on appelait avant les passereaux, c'est des oiseaux qui sont chanteurs. Ils utilisent pour ça un organe qui est interne, qui est le syrinx, qui est à la jonction des bronches. Et donc, ça produit des sifflements. Ils sont capables de faire même deux sons en même temps, etc. Et en fait, la structure du chant, la mélodie du chant, elle est construite au niveau des bronches. Mais le timbre du chant, il va se former dans la trachée et dans la cavité buccale. En fait, la cavité buccale, elle est structurée par la forme du bec. Typiquement, il y a les individus à très, très gros bec. C'est une plus grosse caisse de résonance. Et les sons vont avoir tendance à baisser en fréquence, à être plus graves. Il y a eu un premier papier qui est paru en 2016 qui a montré qu'en fait, les sécheresses aux Galapagos, parce qu'il y a des effets de sécheresse, les Galapagos sont situés en fait au cœur de l'activité d'El Niño, donc il y a des événements cycliques assez forts aux Galapagos. Et en fait, il y a un papier qui avait montré qu'une seule sécheresse favorisait ou défavorisait tel type de plante, et donc les ressources utilisées par les pinsons. Et en une seule sécheresse, en fait, il y avait de la sélection de telle ou telle caractéristique physique de pinsons, et donc était même une sélection de tel ou tel génotype.
Ça veut dire qu'une seule sécheresse suffit pour que certains types de pinsons ne soient plus en mesure de se nourrir et ne puissent pas assurer leur descendance. Comme ces conditions de sécheresse favorisent les graines très volumineuses, ce sont les pinsons à gros bec qui prolifèrent et leur champ évolue en conséquence. Sur ces bases, une nouvelle étude parue dans Science a estimé l'effet qu'auraient jusqu'à 6 sécheresses d'affilée sur la taille des becs des pinsons de Darwin à bec moyen et modélisé les conséquences de cette évolution sur leur voix. Ils ont ensuite fait écouter ces champs transformés à de vrais pinson mâle, puisque ces oiseaux savent reconnaître le chant d'un possible rival sur leur territoire et peuvent être très agressifs, même envers les haut-parleurs qui diffusent ce chant. Les scientifiques ont pu observer que ces mâles, qui ont gardé des becs moyens, reconnaissaient les voix modifiées sous l'effet de 1 à 5 sécheresses d'affilée, et c'est à partir de 6 sécheresses que les choses changent.
Avec le chant modélisé après 6 générations, il y a une indifférence totale des individus qui sont sur place au Galapagos et qui nichent à la diffusion de leur chant modélisé avec un bec qui aurait augmenté durant 6 générations à cause d'une sélection des ressources alimentaires. Ils considèrent qu'ils ont pu, en face d'eux, des concurrents pour l'appareillement et pour le territoire. Là, on est vraiment sur deux populations qui s'isolent, qu'il n'y a plus de flux de gènes entre les deux. Et donc, on va avoir des sélections de traits qui vont être indépendantes dans chacune des deux populations et puis deux espèces qui apparaissent. En fait, c'est exactement ce qu'a constaté Darwin sur site, c'est qu'il y avait eu plein de spéciations qui étaient un tout petit peu différentes les unes des autres et qui avaient l'air de s'être séparées sur des critères de sélection de ressources alimentaires. Là, donc, on voit qu'en fait, effectivement, la sélection de ressources alimentaires, ça conduit à l'isolation des populations, mais que c'est couplé avec de la sélection sur un autre trait qui est aussi capital dans la survie des espèces, l'appariement sexuel.
Les auteurs pointent des limites à leur étude, comme le fait de n'avoir fait écouter ce chant qu'à des mâles, alors que ce sont les femelles qui décident de leur partenaire sexuel. Mais ce papier met en évidence la façon dont l'environnement, ici les sécheresses, influent sur la sélection morphologique des individus, qui jouent elles-mêmes un rôle sur la sélection sexuelle. Le moteur de spéciation, c'est-à-dire de création de nouvelles espèces, est à cheval sur ces deux enjeux, et probablement sur beaucoup d'autres qui nous échappent encore.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Cédric Châteaulus. Eve Der, pour la traduction, merci. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.